Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez dans La France bouge, l'émission résolument positive. Et oui, on va essayer. Qui met en avant les entreprises, les initiatives, les associations qui vont bien, qui se réinventent, qui parfois nous surprennent. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Carole Ferry et bonjour à tous. Alors vous nous écoutez là peut-être en ce moment même au volant de votre voiture. Eh bien tiens, comment se portent les ventes de voitures en ce moment? Quid du boom de l'électrique? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une voiture électrique d'occasion avec le bonus qui vient d'être créé? Allons-nous payer nos voitures hyper connectées de plus en plus cher? Vous voyez, il y a beaucoup de questions à poser à notre invité du jour, Jean-Philippe Imparato, qui est le directeur général de Peugeot.
Est-ce que vous avez déjà conduit une voiture sans permis?
Jamais.
Ils s'en vendent de plus en plus chez les adolescents. C'est même 30% des ventes du groupe, c'est pour ça, Ligier en France. Le spécialiste de la voiture sans permis sera avec nous. C'est son PDG, François Ligier.
Depuis plus de 100 ans, c'est le leader du pneu. Michelin est installé à Clermont-Ferrand, au cœur des volcans d'Auvergne. Comment cette entreprise a réussi à traverser les crises, à se réinventer, à innover? Ce sera notre saga du jour aux alentours de 13h30.
Et bien sûr, les trophées Europe 1 La France bouge. Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur qui vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, nous accueillons le fondateur d'HypKnowledge, une entreprise qui propose d'apprendre les langues étrangères sous hypnose. Allez-vous vous laisser convaincre, ce sera vers 13h45.
Et en fin d'émission demain au travail, on passera un coup de fil chez Santé Vet, une entreprise qui propose à ses salariés de venir au travail avec leur chien.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Alors à la rentrée, nous misions sur le plan de relance en espérant le confinement loin derrière nous. Le Covid semble en avoir décidé autrement, mais comme chaque jour, dans La France bouge, on va quand même encore tenter aujourd'hui, au moins aujourd'hui, de voir le verre à moitié plein. Alors ceux qui résistent, ceux qui se réinventent, avec donc notamment aujourd'hui le marché de l'automobile.
Bonjour Jean-Philippe Imparato.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la marque Peugeot. Bienvenue dans La France bouge sur Europe 1. A-t-on besoin de présenter Peugeot, l'un des plus grands constructeurs français depuis 210 ans présent dans 160 pays. Alors, le secteur d'automobile a été frappé de plein fouet par la première vague du coronavirus. Vous aussi, vous avez dû fermer des usines pendant le confinement. Vos ventes se sont effondrées. Et pourtant, eh bien, vous arrivez à avoir des chiffres dans le vert au premier semestre. Vous l'expliquez comment ?
Un gros rebond en termes d'activité parce que nous avons bénéficié finalement du lancement de la nouvelle 208 et de la nouvelle 2008 qui ont... plutôt un très grand succès, juste avant le premier confinement. C'est-à-dire que nous avons lancé 208 et 2008, fin d'année 2019, premier trimestre 2020. Et donc dans la foulée de ce lancement, on a eu des volumes et une attention sur la marque extrêmement forte. Ce qui nous a permis, juste après le déconfinement, de continuer la montée en cadence de 208 et 2008, et donc de bénéficier de tout cet élan-là. Donc pour Peugeot, un deuxième trimestre extrêmement dur, comme tout le monde, et un très, très très fort rebond en termes de performance commerciale au trimestre 3.
Alors, vous vendez donc des voitures. Par chance, maintenant, chez Peugeot, ça fait votre force. Vous vendez des voitures et vous faites enfin de la marge dessus, ce qui est assez rare chez les constructeurs automobiles. Mais tout ça, c'est aussi réalisé parce que vous avez fait, notamment pendant le Covid, pendant le confinement, un plan d'économie drastique, mesure symbolique. Il n'y a plus de siège social chez Peugeot. Plus personne ne va au siège, il est abandonné.
Exact. L'arbitrage était... on paye les salaires ou on paye des loyers. Donc, ce qu'on a décidé le 16 mars, c'est de se dire, voilà, on écroule tout ce qui ne concerne pas la masse salariale de l'entreprise. C'est ça qui s'est passé. Mmh. Et donc, on a mis en place une cellule de crise tous les jours qui s'est réunie à 8h du mat. Je sais, j'étais en charge de commenter les ventes mondiales du groupe ou l'absence de ventes mondiales du groupe à l'époque. Et on était aligné à une petite dizaine de personnes autour de Carlos Tavares pour prendre en direct des décisions applicables immédiatement. Mode start-up, mode PME, un groupe qui fait un certain nombre de milliards de chiffres d'affaires, qui bougeait en 10 minutes. C'est ce qui a permis à la fin de sortir un premier semestre que vous avez vu.
Mais ce qui est impressionnant, positif, c'est que vous n'êtes jamais retourné dans votre siège. Il est définitivement fermé, ce siège abandonné.
Le siège que nous avions, oui.
Les gens sont tous chez eux.
Non, parce qu'on bénéficie d'implantations évidemment tertiaires à Poissy.
Vous avez redistribué les postes.
Mais enfin, l'idée, c'est qu'on a... peut-être que c'est quelque chose qui va nous tomber dessus ce soir à 20h, mais on est capable de connecter 40 000 personnes en homework aujourd'hui sans aucun problème.
Alors, en effet, hein, selon les informations d'Europe 1 notamment, on est sur un nouveau confinement généralisé. Est-ce que vous vous sentez davantage prêt ? Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous avez mis en place lors de la première vague va vous permettre d'affronter cette nouvelle période ?
Oui. Tout le dispositif de réaction à une situation, je dirais, qui pourrait se dégrader est en place. Le téléworking, l'adaptation de nos outils à une non-présence physique sur site, le fait que nous ayons été entraînés depuis le début, et ça ne s'est pas interrompu ce dernier trimestre, à fréquenter notre bureau un jour et demi à deux jours par semaine maximum. C'est en place et ça peut être réactivable en 5 minutes.
Ça, oui, c'est réactivable, mais il faut bien fabriquer des voitures. Vous, la grande question, c'est de savoir si vos usines vont rester ouvertes. Et ça, là-dessus, je pense que personne, pour le moment, a le début du commencement d'une réponse, sauf si vous avez eu un petit coup de fil de l'Élysée depuis ce matin.
Non, je ne veux pas me laisser aller à des spéculations. En revanche, vous êtes au cœur du sujet. La question, c'est bien, sera-t-on autorisé à fabriquer des véhicules pour livrer les clients qui les attendent.
Et ouvrir des concessions, parce qu'on ne fait pas l'un sans l'autre.
Absolument. C'est le commerce qui tire l'industrie, c'est pas l'inverse. Mmh. Et il se trouve que Peugeot a un portefeuille de commandes à livrer, donc à fabriquer, qui est en hausse de 40% par rapport à l'année dernière. Donc,
Même record. Vous n'avez jamais eu autant de voitures à livrer de l'histoire chez Peugeot, on peut le dire comme ça ?
C'est historique, oui. C'est historique. Et ça peut paraître très paradoxal, et je reste très humble dans mes propos, évidemment. Mais enfin, il est là, et c'est des chiffres. Donc, il faut fabriquer ces voitures pour les livrer au client final. Encore une fois, c'est bien le commerce et donc les bons de commande que les clients nous remettent qui vont tirer la fabrication et donc les usines dans les prochaines semaines.
On va revenir un peu sur le télétravail, puisque vous avez été un des pionniers, hein, finalement, sur la mise en place, la signature de ces accords. Est-ce que vous avez un retour d'expérience ? Est-ce que vous auriez des conseils à donner à tous ceux qui vont devoir passer, là, au télétravail ?
Ah, oui, c'est très intéressant parce que je vais vous parler à titre personnel, je ne peux pas vous parler en général ce genre de truc.
Parce que vous-même, vous appliquez le télétravail.
Alors au début, je me suis dit, mais c'est juste pas possible cette affaire. D'abord, j'aime les gens, donc je veux les voir. Ensuite, j'ai une équipe assez significative, donc je n'imaginais même pas ne pas avoir de contact physique avec les équipes. Et puis après, on a essayé de prendre un brin de recul et on s'est dit, voilà. Qui d'entre nous n'a pas vécu une réunion, un comité de direction quelconque, où vous avez 10 personnes autour de la table, il y en a 8 qui passent leur temps pendant toute la réunion sur leur micro en train de faire leur mail ou de faire des SMS. Et là, on se dit, mais attends, si on va au bureau, il faut que ça ait du sens. Et donc, en conséquence, on s'est dit, c'est quoi les actions qui ont du sens ? Ben faire forcément les actions dans lesquelles on fait du travail en commun. Par exemple, le design d'une voiture. Vous ne dessinez pas une voiture de 2025-2030 sans être avec vos stylistes, avec les ingénieurs, avec les synthèses clients. Par conséquent, il faut être là. C'est vrai pour une visite d'usine. Une usine, ce n'est pas virtuel, c'est physique. Mais tout le reste est potentiellement dématérialisable. Et ça, on l'a vécu. Ça a été dur au début. Et maintenant, on se dit parfois que le matin, et je viens là d'une séance de télétravail chez moi, hein, pour être très clair, s'éviter une heure de trajet ou une heure et demie de trajet le matin et le soir, ben ça vous libère juste 3 heures pour faire autre chose que du trajet. Et c'est plutôt sympa.
Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot, vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Elle bouge et elle roule aujourd'hui parce qu'on parle automobile, comment le secteur peut résister dans ce contexte. Nous sommes jusqu'à 14h notamment avec Jean-Philippe Imparato, le directeur général de Peugeot.
Et avec François Ligier, merci d'être avec nous, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans la France bouge sur Europe 1. Vous êtes donc le PDG du groupe Ligier, spécialiste des voitures sans permis. 100% made in France, hein. Vous avez 2 sites en France. Dites-moi si je me trompe, l'un à Vichy, l'autre à Bouféré, c'est en Vendée. Vous avez 450 salariés. Alors les voitures sans permis, c'est ce qu'on appelait les pots à yaourt. Hein. C'était ça il y a longtemps, parce qu'aujourd'hui le design a bien évolué. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la différence très exactement entre une voiture sans permis et une voiture traditionnelle ?
Alors une voiture sans permis, elle est limitée dans ses dimensions. 3 mètres de long par 1,50 m maximum, dans son poids 425 kg, dans le nombre de personnes à bord, 2 personnes maximum, un conducteur et un passager, et dans sa vitesse, 45 km par heure.
Donc ça, c'est ce qui bloque d'une certaine manière les voitures sans permis. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut rouler dans une voiture sans permis, je ne suis pas sûr que tout le monde le sache, dès 14 ans, ce qui explique votre principal marché, les adolescents, les ados.
Alors, dès 14 ans, on peut conduire avec ce véhicule, pas tout à fait sans permis. Vous devez avoir ce qu'on appelle le permis AM, l'ancien BSR.
C'est-à-dire
qu'on passe également pour son scooter, par exemple. Quand un jeune veut conduire
un scooter, c'est un micro-examen de quelques heures.
Code de la route.
C'est 7 heures de formation à l'auto-école qui permettent d'appréhender le véhicule, d'appréhender son utilisation.
Donc dès 14 ans, si on a ce BSR dans la poche, enfin bon, la nouvelle version du BSR, on peut conduire une voiture sans permis.
On peut conduire pour trouver sa première zone de liberté, sa première indépendance, face à ses parents notamment. Et des parents qui choisissent ces nouvelles mobilités pour apporter de la sécurité par rapport au scooter à leurs jeunes.
C'est 30% de votre marché, je crois, les ados. C'est-à-dire que c'est à peu près combien de voitures? Vous en vendez combien par an à des ados?
On vend au total 15 000 véhicules par an, dont effectivement 30% à cette cible d'adolescents. Une cible qui est en très forte croissance, une cible qui est récente pour nous et avec laquelle on a plaisir à travailler, évidemment.
Et alors apparemment, ce qui leur plaît, c'est que vous faites aussi maintenant des voitures sans permis électriques.
Alors les voitures sans permis électriques, c'est une nouveauté qui n'est pas encore vrai, mais qui va arriver d'ici quelques semaines dans nos concessions. Et c'est un enjeu de transformation capitale face au respect de la population, face au respect du consommateur, d'apporter l'électrique dans nos gammes.
Alors, vous avez peut-être trouvé ma question un petit peu impertinente, mais Carole disait en introduction, on appelait ça un peu des pots à yaourt, parce que c'était moche, il faut bien le dire. Pourquoi vous avez attendu si longtemps, vous et vos concurrents, pour en faire des voitures jolies, que l'on ne peut même plus dire vraiment voiture sans permis?
Surtout, on ne les reconnaît plus. Voilà. Avant, on les reconnaissait, maintenant, on ne les reconnaît plus.
On a une clientèle qui, vous l'avez constaté, se transforme beaucoup. Une clientèle historique qui est plutôt âgée et rurale. Une clientèle de jeunes adolescents, vous l'avez dit, mais aussi des clients qui, chaque jour, utilisent ces véhicules pour aller travailler. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas le permis que vous n'avez pas envie de vous faire plaisir. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le permis que vous avez envie, d'avoir des belles choses, d'avoir des équipements, d'avoir du confort. Et donc, nos véhicules sont beaucoup transformés, effectivement, pour correspondre aux attentes de nos consommateurs.
Alors, qui d'autre achète ces voitures sans permis? On l'a dit, il y a les ados, mais est-ce que, par exemple, si on a perdu son permis parce qu'on a conduit trop vite, excès de vitesse, etc., on peut récupérer une voiture sans permis? Est-ce qu'on peut les louer le temps où...
Vous pourriez effectivement rouler avec nos véhicules. La réalité, c'est que vous n'achetez pas une voiture 13 000 euros parce que vous avez perdu pour quelques semaines ou quelques mois votre permis.
13 000 euros, ce n'est pas le prix de départ quand même, il y en a des moins chers.
Effectivement, nos premiers prix sont dès 8 500 euros jusqu'à 17 000 euros suivant les équipements. Cette population du retrait de permis, c'est un micro-marché qui nous intéresse peu finalement. Alors on vend à des loueurs qui eux louent en courte durée à ce segment-là.
Vous le disiez, l'électrique arrive chez vous, ça va être un développement j'imagine important parce que là c'est totalement adapté au nombre de kilomètres que l'on peut faire. On n'a pas besoin d'une énorme batterie sur une voiture sans permis, j'imagine que les trajets sont relativement courts par
définition.
Effectivement,
nos consommateurs, nos clients déclarent un usage moyen de 50 km au maximum par jour et donc ça nous permet de dimensionner une batterie qui correspond à cet usage-là et c'est un enjeu fort. Alors on a un enjeu de prix qui est important dans le véhicule électrique, nos véhicules sont peu subventionnés par le bonus, contrairement à l'automobile traditionnelle, et donc on doit encore travailler pour atteindre un prix qui soit plus cohérent avec ce qu'attend le consommateur.
Jean-Philippe Imparato, vous êtes donc directeur général de Peugeot. Pourquoi les constructeurs traditionnels ne sont jamais vraiment allés sur ce marché de la voiture sans permis?
Ils y arrivent. Évidemment, c'est pas la marque Peugeot en l'occurrence, mais je me ferai le porte-parole de mon collègue Citroën qui arrive sur ce marché-là avec Ami.
Ouais, alors là, avec un modèle très particulier qu'on trouve notamment à la Fnac et tout ça, mais
absolument.
C'est vrai que c'est encore un tout petit peu à côté, si je peux me permettre.
Mais on est dans ce segment de la mobilité, soit du dernier kilomètre pour la partie véhicule utilitaire. Vous savez que demain, vous ne rentrerez plus en ville avec un véhicule utilitaire si vous n'êtes pas électrique. Et vous ne ferez pas le dernier kilomètre si vous n'êtes pas, par exemple, équipé d'un triporteur électrique qui va pouvoir amener vos colis jusqu'à la fin. On fait l'hypothèse également que ce qu'on appelle le footprint, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés utilisés par la voiture, va probablement réduire. Et donc, ça éclaire d'un jour nouveau ce segment de marché. On s'y intéresse de plus en plus.
Soyons très concrets. Vous dirigez la marque Peugeot. Du côté de Citroën, ils ont fait leur petite révolution. Vous voudriez avoir un modèle similaire dans la gamme de Peugeot d'ici quelques années?
Pas à court terme. Je dirais dans l'horizon des 2 ou 3 ans, je mets mes efforts sur la bascule électrique de la marque Peugeot. Juste après, on verra sur la foi de ce qui se sera passé sur Ami de Citroën, ce que Peugeot peut faire dans ce type de segment.
Merci François Ligier, vous êtes le PDG de la marque automobile Ligier, spécialiste donc des voitures sans permis.
Et Jean-Philippe Imparato, le directeur général de la marque Peugeot, vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil.
Et on parle automobile aujourd'hui avec Jean-Philippe Imparato, le directeur général de Peugeot, qui est notre invité. Alors à partir du 1er janvier, il va y avoir un nouveau malus sur les véhicules les plus polluants en fonction du poids. Bon, vous avez de la chance, hein, comme par hasard, ce bonus entre en vigueur pour les voitures qui pèsent plus d'1,8 tonne. Votre voiture la plus lourde, c'est la 5008, comme par hasard. 1,795 tonnes. La 5 minutes, on est d'accord, là le gouvernement a fait une taxe pour les SUV allemands, ça vous aide pour une fois.
Je m'exprime pas comme ça, mais c'est une bonne nouvelle pour l'industrie française. Quand vous êtes en train de fabriquer vos véhicules haut de gamme dans les usines de Mulhouse, de Sochaux et de Rennes, et que c'est 3008, que c'est 5008, que c'est 508, et du côté de mes collègues, c'est 5 Aircross et DS7 à Mulhouse. La moindre des choses, c'est qu'on défende le patrimoine industriel français. Je pense que, de ce point de vue-là, c'est une bonne décision.
Pourtant, on sait que les voitures plus lourdes polluent plus, parce qu'au niveau du freinage, ça pose un problème. Et puis, tout simplement, là, c'est technique, hein, elles sont plus lourdes, donc elles abîment les routes.
Sauf que les voitures les plus lourdes sont également électriques. Donc, je pense que c'est un souci de cohérence qui, à la fin, préside à ces décisions. Nous, Peugeot, on a résolument basculé l'ensemble de notre plan produit vers l'électrification tous azimuts. Je fais 7 lancements cette année en matière d'électrique, 4 véhicules particuliers et 3 véhicules utilitaires, parce qu'encore une fois, nos clients, artisans, commerçants vont pouvoir comme ça rentrer dans les villes. Et on se dirige vers un monde entre 2025 et 2030 où on aura réduit de l'ordre de 50 à 60% nos émissions. Et pour ça, ça veut dire que le monde entier, en tout cas l'Europe, bascule vers un monde qui sera celui de l'électrification à une vitesse plus ou moins rapide en fonction des pays, des villes et ou des départements, mais on y va droit.
Et alors justement, il y a aussi un bonus pour les voitures électriques et y compris les voitures d'occasion. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour vous. Ça peut dynamiser ce marché de l'occasion de la voiture électrique.
Très bonne nouvelle. Je pense que c'est cohérent. Tout comme est cohérent le plan dit 100 000 prises qui a été lancé, parce que quand on me dit qu'il faut que tu passes à l'électrique...
Pour que ce soit clair, c'est des bornes qui vont être installées enfin partout, on va pouvoir faire enfin l'île Marseille.
Quand on nous dit basculer électrique, les clients nous posent deux questions. Hein. Un, l'autonomie. Deux, la recharge. Et où est-ce que je me branche Que ce soit d'ailleurs dans ma maison ou dans mon appart.
Et combien de temps ça me prend de refaire mon plein
d'électricité? Combien de temps ça me prend pour recharger? Donc si on est capable de leur dire, en 30 minutes, on recharge 80%, la voiture fait entre 300 et 400 km, et... vous trouvez une prise dans un délai humain, je dirais, par rapport à l'endroit où vous vous trouvez, alors le marché va basculer. Mais il faut accompagner ce mouvement. On voit là émerger quelque chose qui semble complètement cohérent. Il faut que ça se mette en place à la très bonne vitesse.
Enfin, c'est un retard en même temps que vous rattrapez. Vous étiez quand même, vous avez mis un peu de temps à vous vraiment vous y mettre sur l'électrique.
Je me rappelle des conversations qu'on a eues sur ce sujet. En 2018, on me disait, mais tu y arriveras jamais. Des informations sur le groupe PSA aujourd'hui, c'est que nous sommes probablement un des deux premiers Européens à être déjà au seuil de CO2 qui nous est imposé pour 2020. Donc on va y aller à la bonne vitesse et je pense qu'on est déjà aujourd'hui dans l'objectif qui nous avait été fixé sur 2020.
De toute façon, soyons très clairs, il n'y aura plus de voitures diesel a priori dans la gamme Peugeot aux alentours de 2025 et plus du tout de véhicules thermiques en quoi 2026-2027. Demain, au minimum, ce sera un hybride ou une voiture électrique.
Hein. Vous y êtes. On pense que le diesel meurt en 2025. Et on pense qu'il n'y a plus un seul lancement non électrifié à partir de 2026.
Alors on a bien vu pendant la crise que les constructeurs français, vous étiez en quelque sorte un peu punis hein, par les délocalisations massives de ces dernières années vers l'Asie, puisque quand la Chine s'est confinée, il y a eu quelques difficultés d'approvisionnement. Là, semble-t-il, vous en avez tiré les leçons, vous prévoyez des relocalisations en France ?
Enfin, nous la question ne s'est pas vraiment posée parce qu'on n'est pas vraiment parti de France, pour tout vous dire. Je pense qu'on
vous
a
avez
contribué.
Quand même des usines
oui,
en
on
Chine.
A des usines hors Europe, mais on n'a pas, enfin hors France, mais on n'a pas d'usine qui est.
Le gouvernement vous a quand même obligé, comme les autres, à remettre des modèles ici. En tout cas, vous a fortement incité.
Si je fais le point, je crois qu'on a contribué pour 25 milliards à la balance des échanges ces 5 dernières années. On a. Comme je vous le disais tout à l'heure, à peu près tous nos hauts de gamme qui sont fabriqués en France, et pour cause, parce que c'est aussi les plus chers. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en termes de localisation, je vous rappelle qu'on a investi très récemment dans une usine de batteries, et avec nos partenaires Saft et Total, c'est-à-dire que là, on va créer...
Et Renault.
Et Renault...
Qu'on a forcé à venir, mais ils sont là quand même.
Probablement, mais encore que l'accord de départ est avec Saft et Total. En tout cas, ça démontre que s'il y avait un Airbus de la batterie, comme on dit, il se passerait en France. Et puis un troisième point, on reconvertit. Trémery est une usine du groupe PSA qui était la spécialiste du diesel. En 3-4 ans, ces gens-là, ont intégré verticalement toute la filière électrique. C'est-à-dire que vous avez un dispositif entre les mains qui est production de voitures, batterie et moteur électrique qui se fait en France pour le groupe. Et ça, on en est plutôt fiers.
Votre concurrent Renault a annoncé récemment qu'il allait devoir fermer de petites unités de production, mais malgré tout fermer quand même quelques sites. Vous, à l'inverse, en ce moment, vous êtes plutôt en train de réembaucher, de revenir au niveau d'avant-crise, même si là, le monde va peut-être s'arrêter en France d'ici quelques heures. Est-ce que vous restez sur ce plan à continuer d'embaucher, à relancer les lignes de production chez Peugeot?
Vous avez vu ce que nous avons annoncé. Je pense que j'y reviendrai pas, puisque ça a été dit et fait. Encore une fois, c'est le commerce qui tire l'industrie. Donc, tant qu'on a des commandes, parce qu'on a des voitures qui sont attractives, on fabrique. Et pour fabriquer, il nous faut des équipes.
Et alors, dites-nous, quelles sont les voitures qui fonctionnent aujourd'hui?
À peu près tout. Pour tout vous dire, j'ai trois voitures de l'année dans la gamme. J'ai une chance extraordinaire. 308, 3008, 208 qui a gagné la voiture de l'année cette année. 208 est la voiture à particulier la plus vendue en France. On a 6 véhicules leaders de leur segment de marché en ce moment. Tout peut changer en quelques semaines, en quelques mois. On passe de héros à zéro en peu de temps dans notre métier. Mais pour l'instant, on a un bon momentum et on va essayer de conserver cet avantage.
Alors, qui dit automobile dit bien sûr pneus. Et s'il y a bien une entreprise qui a su traverser les crises, eh bien c'est le groupe Michelin, numéro 2 mondial des pneumatiques, installé depuis 210 ans à Clermont-Ferrand.
Et c'est notre saga du jour racontée aujourd'hui par Dora Nana de l'équipe de La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge. La saga.
Le leader mondial du pneumatique, présent dans 170 pays, 130 000 salariés, une entreprise visionnaire qui, dès sa création par les frères André et Édouard Michelin, a mis l'innovation au cœur de sa stratégie. Et tout commence en 1889, au départ par une bicyclette. Adeline Chalon-Kemoun, directrice des marques du groupe.
C'est un cycliste qui a échoué quelque part dans la cour de la manufacture Michelin à Clermont-Ferrand avec un problème de pneus qui a donné à l'époque aux frères Michelin l'idée de travailler sur des pneus en caoutchouc démontables.
Dès 1890, les deux frères en sont persuadés, la voiture va révolutionner le monde.
Ils ont axé beaucoup de leurs travaux de recherche sur les pneus pouvant équiper dans le futur des voitures, à un moment où on leur demandait surtout de faire des pneus pour les fiacres. Mais eux étaient convaincus que la voiture deviendrait un bien grand public.
Ils se lanceront également à la conquête du rail avec ce qu'on va surnommer les Michelines.
Et à l'époque, le transport en rail, en train, était assez inconfortable et Michelin a conçu une nouvelle génération d'autorails sur des pneus avec de l'air qui étaient donc plus confortables et plus silencieux.
Et bien sûr, on ne peut pas évoquer Michelin sans penser à Bibendum, ce personnage créé en 1898 et notre Bibendum est encore très moderne et connu aujourd'hui dans le monde entier.
À une époque, en 2020 aujourd'hui, où toutes les marques cherchent des mascottes à prix d'or et qu'on voit qu'encore il y a deux ans, le Bibendum a été élu mascotte du millénaire par un jury de professionnels américains. On voit que c'est encore d'une modernité incroyable.
Michelin est aussi associé au voyage, les cartes routières et bien sûr le guide Michelin créé en 1900.
L'idée, c'était à la fois d'accompagner le conducteur, mais aussi de l'occuper pendant que sa voiture ou ses pneus pouvaient être en réparation. Donc ça voulait dire à la fois lui indiquer des itinéraires, mais aussi celui qui proposait des escales quelque part, plus ou moins gastronomiques, mais aussi pour dormir.
Quelques années plus tard est créé le bureau des itinéraires, qui est un peu l'ancêtre de nos agences de voyage.
Et qui avait finalement pour vocation de fournir aux personnes qui le contactaient ce bureau des fiches précises avec les détails de leur voyage, les détails de leur point d'escale, les difficultés, les obstacles éventuels, et donc de préfigurer finalement un voyage amélioré avant que le client, le conducteur, ne prenne réellement la route.
Michelin, c'est l'innovation permanente, près d'un brevet déposé chaque jour, une marque tournée vers l'avenir, avec la construction d'une usine de fabrication de piles à hydrogène, sans oublier son pneu sans air et increvable qui arrive en 2024.
Dora Nana, donc de l'équipe de La France Bouge. On vient d'entendre, là, juste à la fin de la saga, que Michelin est en pointe sur l'hydrogène. Vous y croyez, vous, Jean-Philippe Imperato, directeur général de Peugeot, oui, à l'hydrogène? Et si oui, quand est-ce qu'il y aura les premières Peugeot hydrogène?
Bien sûr qu'on y croit, et on bosse dessus d'ailleurs. Et on pense que l'hydrogène, c'est ce que je dirais, c'est le coup d'après. C'est le coup d'après pour plein de raisons. D'abord, les coûts de développement. Ensuite, la sécurité. Hein, l'hydrogène, on ne plaisante pas avec ce carburant, je dirais.
Puis il faut réussir à le produire de façon propre.
Il faut le produire de façon propre. Il faut le stocker. Et donc, c'est en ordre de grandeur ce qui vient après le mouvement électrique actuel. Bien que...
ça veut dire quoi ? Quand est-ce que vous pensez avoir un premier modèle compétitif hydrogène ?
Je ne peux pas répondre à cette question comme ça. Mais les ordres de grandeur nous situent entre 2025 et 2030 pour les premières applications série à grande échelle. On va dès l'année prochaine faire rouler des flottes hydrogène pour se tester, pour bosser la sécurité d'ensemble. Parce que nous, et comme Michelin d'ailleurs, parce que là pour le coup, si je peux faire un commentaire, dans la série patrimoine industriel français, Michelin et Peugeot, c'est quand même des références. On place au-dessus de tout la question de la sécurité. Et donc, on n'admet pas qu'il puisse y avoir le moindre accident lié à nos développements. Donc, on est dessus. On commence par des flottes, je dirais, professionnelles. Et puis, on verra les applications série au gré de l'évolution technologique, de la baisse des coûts de revient et du besoin client.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry. Emmanuel Dutheil.
Et c'est l'heure des trophées européens. La France bouge, ils osent, ils se lancent. On les écoute chaque jour pitcher devant l'œil attentif et exigeant de notre patronne ou de notre patron du jour. Aujourd'hui, Jean-Philippe Imparato, le directeur général de Peugeot.
Bonjour Gershon Pinon.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'HypKnowledge. Alors, c'est une entreprise qui propose de donner des cours de langues étrangères sous hypnose. Vous êtes psychologue de formation, spécialisé bien sûr dans l'hypnose. Vous êtes basé à Bordeaux et vous avez créé une plateforme d'apprentissage des langues. Alors je crois qu'il y a anglais, espagnol, allemand, italien. Comment ça marche ? Est-ce que ça fonctionne ? Vous connaissez la règle, vous avez une minute pour nous convaincre, c'est à vous.
Génial, j'adore ça. HypKnowledge, donc du coup, c'est une plateforme digitale vraiment d'apprentissage des langues sous hypnose. Donc l'idée, c'est de pouvoir placer les apprenants dans un état modifié de conscience qui sera complètement optimisé à l'apprentissage. En fait, si vous voulez, l'hypnose, c'est vraiment le nom que l'on emploie à ce véhicule qui va guider l'apprenant dans ce fameux état dans lequel on va chercher à optimiser en lui son potentiel, ses ressources cognitives, mais pas que, également psycho-émotionnel en lien avec la langue. Puisque quand il s'agit de s'exprimer dans une langue étrangère, on peut avoir peur, on a souvent aussi des blocages passés, un manque d'assurance. Donc l'idée d'HypKnowledge, c'est vraiment d'accompagner l'apprenant dans un but d'accélérer complètement son apprentissage en optimisant en lui tout son potentiel. Aujourd'hui, anglais, espagnol, italien, allemand et français, langue étrangère, pour les anglophones et les étrangers, pour favoriser l'intégration dans notre pays. Porté par un modèle économique B2C et B2B, accessible à tout le monde en illimité pour 19,90€ sans aucun engagement.
Et ben voilà, c'est parfait déjà d'avoir réussi cette prouesse de bien tout nous expliquer. Un grand merci pour votre pitch, Gershon Pinon.
Alors Gershon, chaque jour, une experte de la CCI France épluche et analyse votre dossier. Cette experte, c'est Nathalie Carré. Alors quelles sont les forces et les faiblesses d'HypKnowledge ? La réponse.
Trois points positifs pour HypKnowledge. 1. Le marché de l'apprentissage des langues est très concurrentiel, mais finalement ne parvient pas à élever le niveau général des Français. Il y a donc encore de la place pour des innovations. 2. Le côté facile de la méthode qui correspond bien aux attentes du marché, voire même un petit côté prêt à consommer. Et puis le prix qui vous différencie de beaucoup d'autres solutions. 2 points à améliorer toutefois. 1. La réassurance. Vous touchez à un domaine qui peut inquiéter. Que se passe-t-il quand je suis hypnotisée ? Est-ce que ça marche vraiment ? Peut-être que vous pouvez documenter le bénéfice, par exemple comme une étude médicale, en prenant une cohorte de personnes qui suivent vos cours et d'autres qui suivent une autre méthode et comparer les résultats. Et puis, montrer le déroulement d'une séance avec une vidéo de démo, car ce n'est pas facile de se représenter le déroulement des différentes étapes du cours. Éventuellement, le reportage de France 3 Aquitaine est un bon début. Puis, deuxième point, aider à l'achat. Alors, la réassurance, bien sûr, est un bon début, mais ensuite, l'abonnement mensuel, par exemple, peut faire peur. Il faudrait aider les personnes à estimer le coût global de la formation en évaluant leur parcours de formation qu'ils doivent faire pour atteindre leur objectif. Et puis, pensez à donner des exemples de situations de cours pour que le client puisse s'assurer que ça va lui être utile. N'hésitez pas à prendre le visiteur par la main pour le convaincre de passer à l'acte en toute sérénité.
Alors, vous répondez quoi à Nathalie ?
En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle amène. C'est important pour nous, dans notre modèle économique, de proposer justement une formule avec, avec une période d'essai de 14 jours. Maintenant, là, ce qu'elle amène, c'est une donnée importante, c'est l'étape d'avant. Aujourd'hui, l'hypnose peut facilement activer une certaine forme de méfiance par de la méconnaissance. Donc là où on en est justement dans Hypnoledge, c'est en train de prévoir une chaîne YouTube, beaucoup de contenu justement audiovisuel, avec justement de l'apprentissage qui sera émis de cette façon-là, par ce canal-là, pour justement, j'ai envie de dire, éduquer les personnes à ce qu'est réellement l'hypnose et ne pas les laisser croire ce qu'elles pensent qu'elle est.
Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot. Bon, bien évidemment, chez vous, les langues étrangères, c'est capital. Vous pensez quoi de ce projet ? Vous pourriez conseiller à vos équipes de dire, tiens, on tente ça pour avancer sur des langues étrangères ?
Oui, parce que on est en train de préparer, comme vous le savez, un projet qui s'appelle Stellantis, qui va unir probablement PSA et le groupe FCA. Et le groupe FCA, c'est beaucoup d'Italiens, mais c'est beaucoup, énormément d'Américains. Donc il vaut mieux qu'on bascule vite.
PSA, Fiat, Chrysler doivent logiquement fusionner.
Absolument. Et moi, j'aime beaucoup parce que...
Vous êtes mis à l'italien, du coup, par exemple ?
Je parle italien depuis un certain temps. Non, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, l'hypnose, c'est une sorte d'état de super concentration.
Exactement.
C'est donc intéressant, puisque en un temps limité, 25 minutes, je peux apprendre une langue probablement en deux ou trois fois moins de temps que si je le faisais par d'autres moyens. Donc, à mon avis, c'est ça votre proposition majeure. Mmh. Et une fois qu'on aura compris ça, eh ben, on basculera chez vous. Pour 19,90 €, ça me paraît très intéressant.
Exactement.
Et vous hypnotisez à distance, comme ça, sur la plateforme ? Alors, vidéo que...
Non. Du coup, en fait, si vous voulez, tout le contenu pédagogique est vraiment un croisement entre des hypnothérapeutes certifiés, entre des professeurs qui sont natifs du pays pour créer vraiment tout le contexte pédagogique, et également des ingénieurs du son qui sont spécialisés dans l'immersion, et notamment qui travaillent dans des grosses usines de jeux vidéo pour justement créer tout un contexte immersif. Donc, l'ensemble de l'écoute sous hypnose se fait sur de l'audio, sur de l'auditif.
Mais un des points justement très importants, je crois que mettez en avant Nathalie Carré, c'est en quoi avec vous ça va plus vite. C'est vrai que moi je suis allé sur votre site et je me suis dit, il me faut combien de leçons, il me faut combien de temps. On a du mal à imaginer. Donc là vous avez quand même un petit recul maintenant. Oui. Quelqu'un qui serait d'un niveau scolaire en anglais, il a besoin de combien de temps pour avoir un niveau à peu près correct pour être en entreprise ? On ne va pas non plus dire d'être bilingue, mais quand même.
Donc vraiment, je pense qu'il faut qu'on amène une unité de mesure qu'on va appeler le temps passé sous hypnose. Parce que quelque part, entre deux individus qui souhaitent apprendre en fonction de leur niveau de base et leur implication en nombre de séances par semaine, ce n'est pas très représentatif. Donc ce qui compte, c'est de comprendre qu'au final, on peut facilement calculer le temps passé sous hypnose. Aujourd'hui, on a 2 années de recul, plus de 20 000 utilisateurs sur la plateforme, donc on a quand même de la bonne data et des très grosses données. Mmh. Toutes les 20 heures de temps passé sous hypnose, et on ressent un énorme gap dans vraiment la relation subjective à la langue d'une manière très très forte.
Et ça marche avec nos comptes personnels de formation ?
Exactement.
On peut en bénéficier. Et ben voilà, parfait.
Merci Gershon Pinon, fondateur donc d'Hypnoledge, si vous êtes intéressé.
Et si vous avez aussi un projet, l'envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, et bien c'est très simple, vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail, pas besoin d'hypnose, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez peut-être la chance comme ça de faire partie de nos candidates et de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot, nous vous gardons avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil.
Dernière partie de votre émission Demain au travail, on est pour cela toujours avec Jean-Philippe Imparato, le directeur général de Peugeot.
Bonjour Jérôme Salor.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur de Santévet, leader en France de l'assurance santé pour les animaux. Alors ça explique peut-être pourquoi vous est venue cette idée de proposer à vos 150 salariés de venir avec leurs chiens au bureau. Est-ce que ça marche ? Vous avez combien de chiens aujourd'hui dans l'entreprise ?
On a entre 5 et 6, 7 chiens par jour. On essaie de limiter, mine de rien, parce que ça reste une entreprise où on travaille. Et puis, à la base, les locaux n'étaient pas vraiment prévus pour ça. Donc, on essaye de limiter 7 chiens, ce qui est bien déjà, parce que ça fait un peu de trafic. Parce que figurez-vous que les gens ont promené les chiens des autres, bien entendu.
Donc, mais ça vous a demandé, du coup, des aménagements spécifiques quand vous disiez que les locaux n'étaient pas prévus pour ça ?
Alors, on n'a pas touché aux aménagements. En revanche, les chiens sont au pied de leur maître, donc ça se passe très bien. Il y a des paniers, il y a des couvertures, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et puis, donc, comme dit à l'instant, les salariés vont promener les chiens des autres en grande quantité. La chose qu'on a faite et qu'on a modifiée par rapport au passé, c'est qu'on a demandé aux salariés qui amenaient leurs chiens de signer une charte de bon fonctionnement, on va dire, c'est-à-dire qu'ils s'engagent avoir un chien propre, ils s'engagent à, le cas échéant, nettoyer, voilà, etc. Ce genre de choses. Et puis de pas avoir de chien dangereux, bien entendu.
C'est pas quand même trop le bazar, non ? Il nous est arrivé d'en voir à Europe 1.
Il y en a de temps en temps.
Quand ils se mettent à aboyer ou quand ils se mettent à courir. Alors c'est très sympa d'un côté, mais enfin parfois c'est.
C'est un bol bazar.
On a eu un souci un jour d'une jeune femme qui avait une chaise avec des roulettes, qui avait son chien attaché à la chaise et que. Qui est parti avec le chien parce qu'il y a eu une petite course dans les couloirs et la jeune fille s'est retrouvée à 20 mètres de son poste de travail. C'était un petit peu problématique. Mais bon, ça, c'est bien fini. Ça a mis de l'ambiance.
Est-ce qu'on pourrait imaginer autre chose que les chiens, les chats ou autres, par exemple ?
On a un perroquet. Voilà, il est absolument extraordinaire, ce perroquet. Il est magnifique. C'est un hara jaune et bleu, comme dans Tintin.
Qui parle ?
Un petit peu, Capinadoc. Il ne parle pas trop, il est jeune. Hein. Mmh. Il est presque né chez nous parce que son propriétaire l'a acheté quand il était il était salarié d'entreprise quand il l'a acheté. Donc il doit avoir maintenant 2 ans, 2 ans et demi. Je pense que c'est un peu jeune encore pour parler, mais il met beaucoup d'ambiance. Il vole de temps en temps dans les locaux.
Ah bon ?
Donc il fait du plané comme ça. Donc il part d'un endroit, il va à l'autre. Et il a un arbre dans les locaux. Il y a un arbre.
Du coup, ça met une ambiance géniale chez vous. C'est ça.
Mais vous dites
quand même.
Que ça améliore l'ambiance au travail.
Ouais, bien sûr, c'est évident. Il y a un contact entre les gens, il y a de l'ambiance, comme dit, les chiens sortent et sortent avec des gens. Donc finalement, on prend connaissance de ce que font les autres grâce à ça aussi. On va voir les chiens et on discute. Oui, bien sûr, c'est très important.
Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot. Alors vous le disiez, chez vous, c'est plutôt le télétravail maintenant dans les sièges. Mais si vous aviez encore un siège où vous étiez souvent, ce serait quelque chose d'envisageable chez Peugeot ou non ?
J'adore ça. Ça me paraît difficilement industrialisable. Mais comme on est en télétravail, c'est plutôt les chiens qui nous reçoivent à la maison que l'inverse en ce moment. Chez nous.
C'est ça.
Voilà, mais sinon, c'est super sympa comme initiative, je trouve.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Philippe Imparato. Merci beaucoup Jérôme Salor. Vous êtes donc le président fondateur de Santévet.
Et on se retrouve demain dès 13h pour une nouvelle France Bouge. On parlera de quoi, Carole ?
Bah, écoutez, ça va être une émission un peu spéciale demain. On va essayer de s'adapter à la situation. On va voir ce que nous dit Emmanuel Macron ce soir. Et puis, on réagira avec la grande distribution, notamment, voir comment elle s'adapte.
Jacques Cressel, le patron de la Fédération du commerce et de la distribution, sera notre invité. Je me permets de vous informer. Édition spéciale, bien évidemment, ce soir autour des propos d'Emmanuel Macron, autour de Julien Bugier. Édition spéciale également demain matin, 7h, 9h, cette fois autour de Mathieu Belliard. Et donc également La France Bouge, qui sera plus que jamais la France de ceux qui bougent. Europe 1.